Vous écoutez
RMC.
Il est 8h passé de 1 minute. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC. Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Bico, Bougnoul, Nègre, Kirikou. Vous allez entendre dans ce journal les propos racistes, complotistes, misogynes, aussi tenus par des policiers municipaux à Carcassonne, des propos qui ont fuité dans un enregistrement vidéo. On se demandera dans ce journal si les parents ne sont pas en partie responsables de la baisse du niveau des élèves. C'est un des points qui apparaît dans le dernier classement PISA. Et si Paris peut réussir le triplé cette saison en Ligue des Champions, le PSG qui joue son premier match européen contre Bratislava.
Vous venez de l'entendre sur RMC, la ministre Aurore Berger condamne ce matin les propos inacceptables tenus par des policiers municipaux à Carcassonne.
Oui, elle déplore une libération de la parole raciste et espère des sanctions à l'égard donc de ces policiers municipaux qui se sont enregistrés sans le savoir en déclenchant leur caméra piéton durant une tournée nocturne. C'était l'année dernière, en novembre 2025, dans cette ville de Carcassonne. C'est le journal Midi Libre qui a révélé ces enregistrements. Romain Houg, vous les avez écoutés pour RMC et ce qu'on entend est absolument sidérant.
Oui, il y a par exemple cet extrait. Les quatre policiers sont à bord de leur voiture lorsqu'ils reçoivent un coup de téléphone d'une femme qui pense avoir heurté un animal.
J'espère que c'est pas un gamin ou quelqu'un qu'elle a percuté par contre. Non, c'est peut-être un migrant. Un petit Kirikou. Kirikou dans la savane. Il est percuté. Il est venu en France, il est percuté par un véhicule.
Merde alors.
Plus tard, l'équipage s'arrête, boire un café, ce qui donne lieu notamment à cette conversation.
Tout à l'heure, on était sur Carnot, du Bico, du Nègre, du Bico.
Ça, c'est la France, c'est
de l'Afghan, beaucoup d'Afghans.
Racisme, misogynie, homophobie, complotisme, voire même putschisme. Pendant ces 5 minutes de vidéo révélées par Midi Libre, les agents enchaînent les propos les plus ahurissants les uns que les autres. Ils sont tenus en très grande majorité par un homme, le chef d'équipe âgé de 50 ans, ancien parachutiste de l'armée qui collabore régulièrement avec le service d'ordre du Rassemblement National. Il a plusieurs fois escorté Jordan Bardella lors de ses visites dans l'Aude. Ces images, elles sont aux mains de la justice depuis janvier. Le parquet de Carcassonne a ouvert une enquête préliminaire. L'ancienne équipe municipale, elle, a ouvert une enquête administrative. Depuis les élections, la ville a basculé Rassemblement National, mais le nouveau maire, Christophe Barthès, renvoie cette histoire à l'ancienne municipalité. À ce jour, aucune sanction n'a été prise et les fonctionnaires sont toujours en poste.
La nuit a été plus calme à Chambéry, c'est ce que disait un petit peu plus tôt ce matin sur RMC le maire de cette ville, plus calme que la précédente hein, quand des violences urbaines ont éclaté après l'interception par la police d'un automobiliste blessé par balle, homme qui est mort quelques heures plus tard. Ce n'était pas un tir policier, ça c'est ce qu'assure le procureur donc dans cette ville de Chambéry. La justice va devoir se mettre au numérique, c'est l'annonce que doit faire dans la journée le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui convoque aujourd'hui et pour deux jours d'ailleurs à Paris les procureurs et présidents de tribunaux. 3 mois maintenant après l'affaire Liana, il ne veut plus en fait que des dossiers papier se perdent en chemin, ce qui avait permis aux suspects dans cette affaire de passer justement sous les radars. Maxime Clier-Ruzat du service police-justice à RMC, il y a donc encore trop de papier pour le ministre.
Il y a encore 20 à 30% de papier dans les tribunaux, déclaré en juin dernier Gérald Darmanin. La première étape de son plan est donc de numériser l'ensemble des plaintes. Objectif que les procédures recensées par les policiers et les gendarmes remontent instantanément aux tribunaux compétents, là où une procédure papier pouvait prendre plusieurs semaines, voire se perdre. Deuxième étape, la mise en place d'un scoring. Autrement dit, l'intelligence artificielle pourra attribuer un score à un dossier, le prioriser par rapport à un autre, sans que l'on sache pour l'heure les critères de cette notation, mais avec l'espoir de ne plus passer à côté de criminels en série présumés comme Jérôme Barella dans l'affaire Liana. Parmi les autres pistes déjà annoncées, des assistants boostés à l'IA pour résumer des dossiers ou encore aider à rédiger les procédures.
Il y aura une nouvelle réunion sur les prix des carburants aujourd'hui à Bercy. Les distributeurs sont convoqués au moment où les prix repartent fortement à la hausse dans le siège du baril de pétrole qui s'approche des 100 dollars. Avec les frappes encore ces dernières heures au Moyen-Orient, Michel-Édouard Leclerc plaide pour un plafonnement des prix. Bon, on verra si Dominique Schellcher, le président des magasins U, partage ce point de vue. Il sera tout à l'heure face à Apolline à 8h30 sur RMC. Il y a un sujet qui fait énormément réagir depuis ce matin sur RMC, c'est la dégringolade du niveau scolaire dans le dernier classement PISA. Le niveau des élèves français, les résultats des élèves qui n'ont jamais été aussi mauvais, moins 18 points en compréhension de l'écrit, moins 16 points en maths, ça baisse aussi en sciences, il y a de moins en moins de bons élèves. Et alors Bérangère Bocquillon, vous êtes la chef du service société RMC, la France est un des pays où l'implication des parents recule le plus ces dernières années.
Oui, à peine un parent sur deux s'implique désormais, c'est-à-dire demande régulièrement le soir à son enfant ce qu'il a fait à l'école, s'il a rencontré des problèmes ou ce qu'il veut faire comme études. La seule questions que les parents posent encore beaucoup concernent les notes, mais il faudrait plutôt s'intéresser, selon le ministre de l'Éducation, à ce qu'ils apprennent à l'école et à leurs devoirs. Sébastien Vieille est professeur d'anglais et secrétaire national du syndicat SNALC.
On a de plus en plus d'élèves qui vont arriver le matin sans avoir fait leurs devoirs. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, derrière, il y a un suivi qui ne se fait peut-être plus. Il m'est arrivé, quand j'étais professeur principal en classe de terminale, dans les réunions qu'on fait en début d'année, où on réunit tous les parents d'une classe, il m'est arrivé 2 années de suite de me retrouver avec un seul parent d'élève sur une classe de 30 élèves.
Et ce désinvestissement des parents concerne tout le monde, hein, les milieux favorisés comme les moins favorisés. Pourtant, plus les parents s'impliquent, plus les enfants réussissent à l'école. Mais pour Mostafa Ozelik, vice-président de la Fédération de parents d'élèves FCPE, c'est injuste de pointer du doigt les parents.
Il y a également une chose, c'est que l'école doit créer les conditions d'accessibilité, de dialogue, de communication, pas uniquement parce qu'on a mis en place Pronote où on communique avec les parents via des outils numériques. On doit revenir sur la relation humaine entre les familles, les parents et l'école.
Le ministre de l'Éducation a annoncé hier que dès le retour des vacances de la Toussaint, tous les parents recevront des objectifs d'apprentissage pour leurs enfants. Et avant chaque vacances scolaires, des listes de lecture seront mises à disposition des familles.
Jamais 203. Ça, c'est pas des maths, c'est du football. Et c'est Paris qui vise, vous le savez, le triplé cette saison en Ligue des Champions. Les Parisiens qui ont remporté les 2 dernières éditions, qui font leur rentrée donc dans la compétition ce soir à 21h. On vivra ça sur RMC. Ce sera contre Bratislava avec l'idée de remporter encore une fois cette Ligue des Champions, Valentin Jamain.
Oui, devant le Parc des Princes, Agnès a le sourire. Casquette sur la tête, elle pointe du doigt sa tunique bleue et rouge.
Le maillot, oui, on a de la place de mettre 3, 4, 5, 6, 7 étoiles. On s'arrête pas maintenant qu'on l'a, on continue. Tout le monde veut battre Paris, mais Paris, il est imbattable.
Malgré le début de saison difficile, la confiance est là. Alors après le back-to-back, la supportrice en veut plus.
Alors je sais pas comment on dit le tri-tout-tout-tri.
On dit le three-peat, expression américaine pour dire triplé dans le sport, auquel croit aussi Clément, alors que 5 recrues sont arrivées.
Ouais, je pense que c'est faisable. On a eu un renouvellement d'effectifs cette année. À part le Bayern, je vois pas d'équipe vraiment aussi compétitive que le PSG.
La victoire, il ne s'en lasse pas.
La première, c'était incroyable. Après, ça a toujours les matchs de Ligue des Champions, une grande saveur. Ça reste quand même ultra important.
Au 21e siècle, seul le Real Madrid a gagné 3 Ligues des Champions de suite et le capitaine Marquinhos s'assure que son équipe fera tout pour faire pareil.
C'est une question d'ambition, une question de motivation, une question de philosophie et maintenir notre niveau d'exigence pour montrer que nous, on peut arriver encore une fois loin dans cette compétition.
Face à d'autres prétendants ambitieux comme Arsenal, Barcelone, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid.
Et c'est mal parti pour Lille, battu 3-2 hier soir par le Betis Séville. C'est un événement mondial, vous le savez, à chaque fois. Le géant Apple va présenter en fin de journée ses nouveaux iPhones et certainement son tout premier iPhone pliable. 7 ans quand même après son concurrent Samsung. Et alors les passionnés de jeux vidéo sont ravis. Il y a Nintendo, vous reconnaissez la musique, qui vient de présenter les images du nouveau jeu Zelda, un remake de Ocarina of Time, un des plus vendus de l'histoire, avec des graphismes améliorés évidemment par rapport à la version sortie en 98 sur Nintendo 64. Le jeu sortira le 5 novembre, et là, petit coup d'œil sur le calendrier, le 5 novembre, ça tombe 2 semaines avant la sortie du nouveau GTA. Il y en a qu'on va pas beaucoup voir cet hiver. Hein.
On sent qu'Emmanuel Le Chypre est prêt là. Il est au taquet. C'était le journal de...
Ça se regarde comme des films.
C'était le journal de Quentin Minet. Il est 8h09 sur RMC. Et ces prix que vous voyez partout désormais autour de vous. 2,12€ le litre d'essence, 2,29€ le litre de gasoil. Où est-ce que ça va s'arrêter? Bonjour Aurélie Trouvé.
Bonjour.
Vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il faut bloquer les prix du carburant. Voilà ce que vous demandez déjà depuis des mois désormais. Bloquer les prix du carburant et taxer les super profits. Vous allez peut-être trouver un nouvel allié, Michel-Édouard Leclerc hier, qui dit qu'il faudra plafonner les prix, que c'est inéluctable. On vous interroge dans un instant, 8h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Le baril de pétrole a dépassé les 100$ cette nuit après de nouvelles tensions au Moyen-Orient et conséquence, le prix des carburants n'est pas prêt de redescendre. 2,12€ le litre d'essence, 2,29€ le gasoil. Aurélie Trouvé, vous êtes toujours avec nous, vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut bloquer les prix des carburants à 1,70€. Comment on ferait concrètement? Qui rognerait sur sa marge? L'État, les raffineurs, les distributeurs?
Très clairement, ceux qui vont baisser leur marge, ce sont les pétroliers, c'est Total, hein, puisque c'est eux qui profitent de la guerre, et je le dis bien, ce sont des profiteurs de guerre. qui font en fait un maximum de surprofit depuis le début de la guerre, tout simplement parce que Total est un pétrolier qui extrait le pétrole et son coût de production n'a pas augmenté depuis un an, alors qu'il le revend beaucoup plus cher.
Aurélie, sauf que le problème, c'est que Total, avec ses prix bloqués déjà, a fait plus pour les Français que l'État, déjà sur les aides au carburant.
Alors ça, c'est une vaste blague, d'ailleurs une blague dramatique, parce que vous avez vu que il a plafonné à des prix ahurissants, quoi. Le gazole, vous l'avez vu, est à 2,30 €, il plafonne, je crois, à 2,25 € ou 29. Donc il plafonne un prix en réalité très haut, beaucoup trop haut. Le sans-plomb à 2 €, nous nous demandons le sans-plomb, nous voulons plafonner et nous le plafonnerons si nous gouvernons à 1,70 €. Et je le dis, il suffit juste d'un décret en fait pour le faire. Et d'ailleurs, il y a d'autres pays, plein d'autres pays dans le monde qui cette année ont plafonné les prix des carburants devant
le scandale des prix des carburants. Ils l'ont pas fait longtemps.
Certes, mais vous avez la Pologne, la Hongrie, la Croatie, le Mexique, la Thaïlande, l'Indonésie. Il y en a encore qui le font. Ou alors plafonnement des marges, République tchèque, Autriche. Et qu'a fait la France ? Rien. Il y a plein de pays aussi qui ont demandé une taxe sur les super-profits totales, de l'Allemagne à l'Espagne, etc. Qu'a demandé la France ? Rien. Et on a un gouvernement qui fait du bricolage.
J'allais même dire pire, dans un sens, Aurélie Trouvé, c'est qu'il n'y a pas eu effectivement une demande de taxation cette année, mais c'est même le patron de Total qui a pris les devants en menaçant l'État, en disant s'il y a une taxation des super-profits, alors plus jamais vous ne pourrez compter sur moi pour plafonner les prix.
Mais c'est justement insupportable, la soumission de ce gouvernement et de M. Macron, de ses premiers ministres. Je rappelle qu'il y a, il y a eu Gabriel Attal ou Édouard Philippe et aujourd'hui Sébastien Lecornu. Les premiers ministres sont soumis totalement à Total. Et Total, c'est du chantage à la pénurie qui est insupportable.
Votre mesure, le grand gagnant de votre mesure, ce serait Total. Pour une raison simple, c'est que Total maîtrise tout, depuis le puits de pétrole jusqu'à la pompe à essence. Si vous bloquez les prix et que tous les autres distributeurs qui, eux, achètent leurs produits raffinés sur un marché mondial où ce sera très cher, vous les mettez tous sur la paille. Vous les mettez tous sur la paille. Donc, il ne restera plus une station-service à part les stations Total.
Aurélie,
Vous êtes en train de reprendre, mais exactement ce que les mensonges de Total, en réalité, et ce que M. Pouyanné raconte et son chantage. Mais en réalité, d'abord, le blocage des prix n'empêchera aucunement Total de produire. Il y aura juste un peu moins de dividendes indécents des actionnaires. Je rappelle quand même qu'il y a eu 12 milliards de profits de Total sur les 6 premiers mois, ce qui leur a permis d'augmenter énormément les dividendes des actionnaires. Vous savez que les actionnaires, par ailleurs, c'est 40%, c'est des fonds américains. D'accord ? Total a plusieurs mois de stock privé. Et il ose faire du chantage. Et par ailleurs, son chantage à la délocalisation, j'y crois absolument pas, parce que d'abord, il faudrait plusieurs semaines, plusieurs mois avant de transformer sa chaîne de valeur, en réalité.
Aurélie Trouvé, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas juste baisser les taxes ? Ça, c'est la proposition du Rassemblement National. Baisser les taxes, remettre une sorte de TIPP flottante qu'on pourrait faire baisser le temps que ça ne redescende.
Eh ben ça reviendrait à faire payer extrêmement cher le contribuable, d'accord, sachant que les taux d'intérêt de la dette explosent, parce que évidemment ça ferait des milliards d'euros en moins pour les caisses de l'État, et évidemment ça devrait être compensé par le contribuable, sans servir à rien, et même en remplissant encore plus les poches de Total, parce que
sinon il y a une autre idée de taxe.
Total va diminuer ses prix. Non mais juste, si vous diminuez la TVA, rien ne dit que Total va baisser ses prix. Donc Total continuera au contraire à faire ses profits. Donc vous voyez que ça ne va pas. Ça sera juste un chèque cadeau des contribuables aux grands actionnaires de Total. Philippe, nous, on est contre ça.
Philippe a une proposition très concrète. Bonjour Philippe, vous nous appelez au 3216 depuis la Haute-Garonne. Vous êtes à Tournefeuille et vous êtes fonctionnaire. Philippe, vous dites faut peut-être partager les taxes, y compris avec les voitures électriques.
Oui, voilà, c'est ça exactement. Je me demande pourquoi les déplacements qui sont réalisés en voiture électrique ne sont pas taxés au même titre que les personnes qui se déplacent avec des voitures thermiques.
Ça permettrait en quelque sorte de partager, de pouvoir baisser les taxes sur le thermique si on augmentait celle de l'électrique. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Aurélie Trouvé ?
Je dirais là, au contraire, il faut pousser vers, il faut aider les gens à passer à l'électrique. Malheureusement, le gouvernement a sabré plein d'aides.
Mais aujourd'hui, il y a une grande injustice entre ceux qui n'avaient pas les moyens de passer à la voiture électrique qui sont restés avec leur vieille voiture thermique et qui payent beaucoup plus cher que les autres.
Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a une injustice. C'est-à-dire que le gouvernement ne donne pas les moyens aux gens de passer à l'électrique. Il aurait dû y avoir beaucoup plus d'aides pour passer à l'électrique et le gouvernement en a sabré plein. Et je vais vous dire, aujourd'hui, l'urgence est de sortir de cette société du pétrole. Vous savez que notre énergie, elle dépend encore à 60% des hydrocarbures. Macron est au pouvoir depuis 9 ans, il a fait quoi pour ça ? Contre ça ? Rien du tout. En fait, il a fait en sorte que nous soyons encore hyper dépendants du pétrole importé et c'est une honte que le gouvernement n'ait rien fait, rien planifié, rien anticipé, gère à la petite semaine catastrophe sur catastrophe. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous le dis que, et je vous l'annonce, la France Insoumise a obtenu une mission parlementaire dont je serai rapporteur sur le scandale des prix des carburants et ce que nous devons absolument faire.
Mais on sait déjà tout, il n'y a pas de marche nulle part.
Vous nous le direz et vous reviendrez nous annoncer les conclusions de votre rapport. Merci beaucoup Aurélie Troupé d'avoir répondu à nos questions, députée LFI de Seine-Saint-Denis. Et merci à Philippe pour sa proposition. Il est 8h20 sur RMC, c'est l'heure d'Arnaud de Manche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche. Et bonjour.
Bonjour Pauline,
bonjour Manu, bonjour Mathieu,
bonjour.
Salut
bonjour.
Tous les amis, est-ce que quelqu'un veut boire un café ? Alors, on va parler d'actu ce matin, un petit point météo d'abord, il va faire un peu plus froid aujourd'hui, on attend des températures inférieures à 20 degrés sur la moitié du pays, et chez les Le Chypre, ça y est, c'est le top départ. On a donc ressorti le service à fondue et l'appareil à raclette. Manu a fait ses adieux à son barbecue et à sa plancha.
Salut les amis. On se revoit l'été prochain, vous allez me manquer.
Mais papa, ne pleure pas.
Oh fiston, tu sais, je suis un grand sentimental. Rappelle-toi cette côte de bœuf qu'on a fait en juillet.
Bon, puis nous, il va falloir qu'on trouve une place dans la cave pour ranger les 4 blocs clim et les 12 ventilateurs qu'on a acheté une fortune au mois de juin. Allez, la politique, tant qu'on parle d'amateurs de barbecue, Fabien Roussel s'est déclaré candidat à la présidentielle. Eh ben, je vais vous dire, tant mieux. Voilà, ouf. Moi, j'avais un pote de gauche qui me disait, ça manque de candidats, on retrouve pas toutes les nuances. Eh ben, ça vient. Ah, voilà. Fabien Roussel a déclaré sa candidature dimanche sur TF1. C'est une coutume.
Oui, il habite désormais, vous avez raison.
Après Glucksmann et Olivier Faure, le 20h de TF1, tous les dimanches, un nouveau candidat de gauche. Ils vont pas réussir à tenir toute la saison, hein. Mi-février, ils vont être tellement en galère, ils vont aller chercher Edith Cresson dans son EHPAD. Madame Cresson, est-ce que vous vous présentez à la primaire du PS ?
Comment ? Où est-ce qu'il est, monsieur Mourouzi ?
Il est mort, je suis monsieur Boulot.
Vous avez du boulot ? Eh ben, c'est bien d'avoir du travail, jeune homme. Mais qui êtes-vous ?
Je suis monsieur Boulot.
C'est bien d'avoir du travail, jeune homme. Mais qui êtes-vous ?
Je suis monsieur Boulot.
C'est bien du boulot. Les gens en ont plus du boulot. À cause des socialistes ! Mitran.
Ok, bon, merci Madame Cresson. Et dimanche prochain, je recevrai le fémur de Lionel Jospin.
Oh non,
ne pas louper.
Mais non.
Ça suffit. Il fouille tous les tiroirs.
Non mais. C'est du jour le classement PISA.
Oui, le classement PISA, énorme sujet. Alors lisons-le déjà, le classement PISA. C'est scandaleux. Numéro 1, la 4 fromages. Numéro 2, Regina. Numéro 3, la alors je vois Mathieu Béliard
s'aligner sur sa chaise.
Non, c'est pas vrai. Non. Top 1 des pizzas, c'est la déconstruction italienne de tomates concassées sur son lit de mozzarella de lait de musaraigne et pâte au levain antique. Bon, plus sérieusement, le classement PISA, c'est quoi en vrai ? C'est le classement mondial des niveaux et des systèmes éducatifs. C'est un peu l'Eurovision des écoles. Et comme à l'Eurovision, la France est tout en bas. Voilà les enfants, vous m'entendez ? Vous êtes nuls ! Vous êtes les pires enfants du monde. On capte là, mes nièces, elles m'entendent. Alba, Valentine, vous êtes les pires nièces de tout le continent. Les Roumaines sont mieux, les Chinoises sont mieux, tout est mieux. Emmanuel Macron, il doit être fou. Il doit être là, putain, déjà que vous faites pas d'enfants, et en plus, quand vous en faites, ils sont teubés. Ouais, faut encore tout faire soi-même dans ce pays. Ben, je vais m'y coller alors. Allez Brigitte, viens, on va... Ah non, merde, on peut pas.
Oh non.
Après, on le savait hein, que nos écoles étaient pas dingues. Quand tu penses que le top du top des écoles d'économie, chez nous par exemple, elles ont sorti comme number one, comme élite, Bruno Le Maire. Dans notre système, le premier de la classe, celui qui a le ministère, c'est monsieur 3000 milliards. Ben voilà, c'est te dire si le niveau global n'est pas fameux.
Oui, un décès, un autre, j'allais dire, vous a marqué un autre.
Oui, un décès, voilà, ben oui, c'est l'heure de l'hommage. Une grosse créature orange qui aimait se promener sur une île pleine d'enfants.
Casimir.
Ah ouais, non, c'est pas Donald Trump, effectivement. Voilà. C'est Yves Brunier, le créateur et l'interprète de Casimir. C'est un héros des enfants des années 70, Casimir, c'est comme Nounours de Bonne Nuit les Petits. Pareil, Nounours, c'était un monsieur dedans.
Pom, 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 je suis bien content de voir les petits enfants.
Bonjour, Nounours.
Ne m'appelle pas Nounours. Appelle-moi simplement Jack.
Oh non.
Ou Monsieur Lang. Tu sais que je suis ton ministre de l'éducation. Les enfants, vous voulez que je retire mon costume? Tenez.
Ah, un monstre! Frankenstein!
Mais enfin, vous plaisantez, je sors de la clinique esthétique des Champs-Élysées et du salon de coiffure. Je suis votre ami. Je suis un peu Casimir.
Ouais, t'es un peu quasi-mort, surtout.
Les enfants sont méchants. Ils sont nuls à l'école et ils sont méchants. Casimir, c'est un programme très populaire. C'est très France d'avant, Casimir. D'ailleurs, en Allemagne, l'AFD veut racheter la licence et lancer une adaptation locale, Nazimir.
Oh non! Je suis Nazimir! Votre ami de l'AFD, les dinosaures nazis. Aujourd'hui, on va agrandir l'île des enfants en rajoutant la Pologne et l'Alsace et la Lorraine. Voici venu les tanks, les rires et les chants.
Ça promet comme Allez, étudiez bien. Merci, les enfants. À demain.
Il est 8h25 dans un instant. Le face-à-face. Mon invité, c'est Dominique Schelcher, le patron des magasins U. Et on va parler carburant, notamment. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le patron de Coopérative U, les magasins U. De très nombreuses questions à vous poser, mais d'abord sur le carburant, évidemment. À l'aube ce matin, les Iraniens disent avoir frappé des bateaux américains. Les États-Unis avaient frappé plus tôt dans la nuit 5 pétroliers iraniens. Plus de 100 dollars le baril cette nuit. 2,12 € le litre d'essence, 2,29 € pour le gasoil. Ça, c'est la moyenne sur le territoire français. Jusqu'où ça va monter?
Personne ne peut le dire, mais tant qu'il y aura des perturbations comme cette nuit encore, des bombardements, et qu'on n'aura pas retrouvé une chaîne logistique, parce qu'en fait, le carburant, c'est une chaîne logistique mondiale qui est complexe, qui est lourde. Et cette chaîne, elle est perturbée. Elle est perturbée comment? Il y a des stations de raffinage qui ont été bombardées, donc il y a des capacités de raffinage qui sont moins fortes qu'avant. Il y a des routes maritimes qui sont perturbées parce que les bateaux sont attaqués. Donc, par exemple, l'assurance de ces bateaux coûte plus cher. Parfois, les pétroliers prennent des bateaux plus petits. Donc, toute la route est plus compliquée, donc tout est un peu plus cher. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de la sérénité, la paix, en fait, et de la tranquillité pour de la circulation normale, on aura des prix tendus.
Est-ce qu'il faut se préparer à ce que votre confrère, Michel-Edouard Leclerc, parle de 2,40 € le litre? Il dit ça peut arriver. Est-ce que vous vous dites, oui, on en est là?
Je ne fais aucun pronostic, mais je constate seulement que c'est extrêmement tendu. Il n'y a pas du tout de sujet de pénurie. Par contre, faut rappeler que sur le gasoil, on est complètement dépendant des importations, complètement en France. On n'a pas, voilà, on importe tout. On ne raffine plus, on importe tout. Et quand vous importez dans la situation que je viens de décrire, avec des capacités de raffinage réduites, avec des bateaux plus petits qui coûtent plus cher, eh ben on est très dépendant.
Vous dites, il n'y a aucun problème de pénurie. Il n'y a pas de pénurie en France.
Il n'y a pas de pénurie. C'est plus difficile de le trouver, de l'acheminer. Mais on continue à en trouver et le flux est régulier, mais il est plus cher, malheureusement.
Mais à quel prix, évidemment? Et puis, cette question de la spéculation malgré tout. Vous dites, oui, la chaîne concrète, et évidemment, on l'imagine et on le voit bien, et à nouveau, avec les frappes qui ont eu lieu cette nuit, tout est plus compliqué. Mais est-ce que ne s'ajoute pas à cela une question de spéculation? Est-ce que certains, LFI parle de Total, comme de profiteurs de guerre? Est-ce qu'il y a eu une forme de spéculation, de jeu là-dessus?
C'est maintenant documenté. Certains de vos confrères ont fait des enquêtes très fouillées. Au niveau du raffinage, les marges ont fortement augmenté, x3, x4. Donc, il y a...
Les marges, c'est pas seulement les coûts, c'est les marges.
Tout à fait.
C'est
les coûts ont augmenté, on vient
ça,
de le décrire.
Mais là, les marges, ça veut dire qu'ils en ont profité en quelque sorte.
Profité davantage que pendant la période précédente. Et si je pense, il y a un maillon qui peut peut-être aujourd'hui faire un effort, mais il est à l'étranger, ce maillon, essentiellement. Donc, il n'est pas français. Et donc là, c'est difficile de demander, revoyez vos marges de raffinage. Mais ce maillon-là, clairement, c'est x3, x4. Donc,
ce maillon-là, c'est le raffinage.
C'est
pour
le
vous,
raffinage.
C'est le raffinage c'est sur le raffinage. Lequel il faut porter les efforts.
Porter les efforts. Voilà, l'assurance, elle coûte plus cher, c'est normal. Les gens veulent protéger leur outil de travail. Les routes sont plus longues, tu ne pourras rien y faire. Mais peut-être sur le raffinage, c'est possible.
Quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire que vous donnez aussi un signal au gouvernement qui... a décidé à nouveau de convoquer les distributeurs ce matin
aujourd'hui, oui.
À Bercy. Depuis le début de ces hausses du carburant, depuis le début de la guerre en Iran, ils ont tendance à vous faire porter le chapeau. Ils ont eu au début ce réflexe de dire c'est votre faute, vous les distributeurs. Oui. Vous n'avez cessé de dire non, on a baissé nos marges. D'abord, est-ce que vos marges aujourd'hui sont extrêmement réduites sur l'essence? Et deux, qu'est-ce que vous allez leur dire sur les marges?
On en a déjà parlé ici, Apolline de Malherbe.
Ça n'a pas changé?
À plusieurs reprises et ça n'a pas changé. C'est un produit d'appel, il est très bataillé. Les gens, avec ces prix d'aujourd'hui, regardent au quotidien leur station et vont à la moins chère. Si vous n'êtes pas dans les prix les moins chers, les clients fuient et c'est pas l'intérêt du commerçant. Donc nos marges sont plus réduites que jamais au quotidien. Au début de la crise, c'était au printemps, effectivement, on était tous distributeurs montrés du doigt en disant « Vous êtes un des maillons qui profite ». Ouf, après enquête de Bercy, puisqu'il y a eu un rapport dont vous avez parlé, porte-parole du gouvernement, Madame Maud Bréjon, a dit « On a étudié le sujet, il n'y a pas de marge abusive dans la grande distribution ». C'est toujours le cas actuellement. Et je dis « Heureusement qu'elle l'a dit ». Parce que c'est la vérité. Nous, on le disait.
Vous ne vouliez pas être les boucs émissaires.
Mais non, mais on l'est à chaque fois. À chaque crise du carburant, tout de suite, le vendeur final est montré du doigt. Nous ne sommes qu'acheteurs et revendeurs. Notre marge est minime parce qu'on n'a pas le choix.
Mais alors pourquoi Bercy vous convoque à nouveau? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore vous demander?
Mais pour suivre la situation...
Ou alors c'est peut-être pour s'agiter et montrer qu'on s'agite?
Non, mais pour suivre la situation, il y a énormément de choses à dire. Où en est l'approvisionnement? Quelles sont les pistes d'amélioration? Quelles sont... Voilà, il y a toujours...
Comment est-ce que l'État peut vous aider?
Alors, là c'est extrêmement difficile. Je pense que c'est pas nous qu'il faut aider actuellement, c'est les Français qui sont en grande difficulté par rapport à ce prix du carburant. La situation est très tendue pour énormément de Français et c'est ces Français-là qu'il faut aider. C'est pas
ça veut
nous.
Dire qu'il faut prolonger sans hésitation. On a senti une hésitation la semaine dernière. Ils ont pris le temps avant de vraiment confirmer que les aides allaient être reconduites. Il ne faut pas d'hésitation. Il faut dire on continue à les aider quoi jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'essence ne redescende.
Mais là, ça remonte à un niveau vraiment très fort. C'est des niveaux historiques. Là, on frôle le record sur le gasoil et on est au record sur l'essence, on est au record. Donc l'impact au quotidien pour tous les Français, notamment dans nos campagnes, qui amènent les enfants à l'école, qui vont faire les courses, qui vont au sport, au travail avec la voiture, mais c'est considérable. J'entendais un chiffre ce matin, 5 millions de Français passent un salaire complet par an sur le carburant. C'est énorme.
C'est énorme. Est-ce qu'il faut plafonner les prix?
Plafonner les prix, moi je pense que d'abord faut aller au bout des aides, peut-être les améliorer et accompagner les Français qui en ont le plus besoin. Et là, Dieu sait que beaucoup en auront besoin. Plafonner les prix, les caisses étant vides actuellement, ça coûterait encore très très cher. Et ça, c'est quelque chose que moi je peux pas préconiser aujourd'hui.
Vous avez entendu votre confrère Michel-Edouard Leclerc qui dit le plafonnement sera inéluctable. Du côté de LFI, on veut plafonner le prix et notamment le prix de l'essence à 1,70 €.
Bon, je pense vraiment que le gouvernement va continuer sa politique d'aide ciblée. Et après, le plafonnement, encore une fois, les caisses de l'État sont vides. Peut-on encore aggraver le déficit de manière massive en touchant tout le monde? Vous voyez, le sujet, quand vous faites ça...
On va revenir à la question des salaires, parce que pour vous, tout est lié. Et vous dites que c'est sur les salaires, à la fin, que l'on fait peser le fait de ne pas avoir fait d'économie ailleurs. Dominique Schellcher, est-ce que Total vous fait une concurrence déloyale?
C'est une forme de concurrence déloyale, je l'ai déjà dit. Ils sont... Ils maîtrisent toute la chaîne, de l'extraction au raffinage à la vente. Donc, ils maîtrisent leur prix, ce que nous ne pouvons pas faire. Et en plafonnant, ça nous fait une concurrence déloyale. Je vous donne un chiffre ce matin. Depuis le début de l'année, chez Coopérative U, on fait 7% de volume de carburant en moins par rapport à l'année dernière.
Vous avez baissé de 7% vos ventes de carburant.
C'est inédit, c'est jamais vu. Là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a cette concurrence déloyale. Voilà. Il y a le changement de comportement des Français qui s'adapte, moins de déplacements, des départs en vacances moins loin cet été. On va une fois de moins chez la belle-mère le dimanche. Mais clairement, ils le disent comme ça. Et puis, voilà, c'est ces éléments-là.
7% de moins, c'est considérable.
C'est considérable, c'est du jamais vu. Et donc, en fait, l'impact est fort et le changement de comportement est profond en ce moment.
C'est un changement de comportement du consommateur. Nous entrons dans un monde de rareté. Voilà l'expression que vous avez prononcée il y a quelques jours. Ça rappelle aussi la phrase d'Emmanuel Macron au moment de la guerre en Ukraine qui disait c'est la fin de l'abondance également, une forme de fin de mondialisation où on pouvait tout trouver partout, tout le temps. Dominique Schelcher, quand vous dites il y a 7% de moins sur le carburant, est-ce qu'il y a aussi une baisse de la consommation sur le reste, une baisse du volume des achats sur le reste des produits?
Le moral n'est pas très fort en cette rentrée. Moi, je trouve les Français extrêmement fatigués après toutes les canicules. Les gens ne sont pas reposés. Ils ne sont pas sereins par rapport à la situation économique. Et ils sont préoccupés par la suite, la campagne électorale que vous commentez tous les jours. Et surtout, à quoi vais-je être mangé, notamment en termes de fiscalité. Donc, tout ça les tend. Et donc, ils arbitrent, ils sont prudents. Mais je rappelle un chiffre de base d'abord. Un tiers des Français sont à découvert à la fin du mois. Un tiers des Français. C'est énorme. Vous rajoutez à cela les gens qui sont à l'euro près, la proportion est énorme. Et quand les prix du carburant atteignent des sommets comme actuellement, c'est très difficile pour beaucoup, beaucoup de Français. Et je ne sais pas si on en prend exactement toute la mesure.
Ça se manifeste comment? Est-ce qu'il y a moins d'achats à la caisse? Est-ce que le caddie est moins grand?
Le caddie se concentre sur l'alimentaire. Tout le non-alimentaire est très, très arbitré. Très arbitré. On se concentre sur l'essentiel, c'est se nourrir et quand même bien manger, etc. Voilà l'essentiel. Et ça dure depuis des mois. Et ce qui était au départ, je pense, une adaptation, devient un changement en profondeur. Vous savez, quand vous avez abandonné, pendant le début de la guerre en Ukraine, des grandes marques parce que la marque distributeur était moins chère, maintenant vous avez pris l'habitude de prendre...
Et vous ne retournez pas forcément vers la marque que vous avez quittée. Dominique Schelcher, il y a un tiraillement aujourd'hui entre la question du pouvoir d'achat et vous vous êtes fait tous les chantres de la lutte contre l'inflation, de la baisse des prix et notamment sur l'alimentaire. Quand je dis vous tous, c'est vous, Michel-Édouard Leclerc, le patron des mousquetaires. Et à l'inverse, vous avez les agriculteurs qui aujourd'hui disent ça suffit, il faut accepter une forme d'inflation sur l'alimentaire. On ne peut pas continuer à payer ce que l'on mange si peu cher. On ne peut pas continuer à faire de l'alimentaire la variable d'ajustement parce que ça se fait au mépris de l'agriculteur et que l'agriculture va mourir. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Les agriculteurs doivent vivre dignement de leur métier, bien sûr. Je vous donne un exemple de ce qu'on a décidé cette semaine. Il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois, on avait signé des contrats avec des producteurs de tomates pour une opération de tomates grappes à prix coûtant cette semaine. D'accord? C'était convenu à un certain prix il y a plusieurs semaines, avant un peu les canicules et la baisse de rendement à la production. Quelques jours, on a reconsidéré cette opération. Les contrats étaient signés, ça voulait dire quoi? Que les producteurs étaient contraints de nous livrer. Mais s'ils nous avaient livré au prix signé il y a deux mois, ils auraient perdu de l'argent. On a dit non, on annule l'opération dans tous nos magasins.
Vous avez rompu le contrat pour pouvoir les payer davantage.
Pour pouvoir les payer davantage, et on ne fait pas l'opération. Et dans tous nos magasins, il y a une affiche qui dit « On s'excuse, on n'a pas la tomate grappe prévue, mais on paye au juste prix l'agriculteur. » C'est ce type de raisonnement qu'il faut avoir, et on est engagé là-dedans.
Est-ce qu'il faut carrément aller plus loin, c'est-à-dire se dire désormais, je recevais le patron de la FNSEA la semaine dernière, qui disait « Quand une brique de lait est vendue moins de 1 euro, ça veut dire que c'est pas possible. Ça veut dire que techniquement, il y a un problème quelque part. Ça veut dire que l'agriculteur, eh bien, au départ du maillon de la chaîne, il n'est pas payé à sa juste valeur.
Mais le lait...
Est-ce qu'il faut s'engager à ce qu'il n'y ait plus jamais de briques de lait, enfin le temps que ça redescende, plus de briques de lait à moins de 1 euro dans vos magasins?
L'essentiel de nos ventes chez U, je vous le dis, j'ai vérifié parce que je pensais que vous me poseriez la question.
Le lait, c'est essentiel, c'est vraiment c'est la essentiel. Base.
L'essentiel de nos ventes se situe au minimum à 1 euro, 99 centimes, 1 euro le litre, notamment toute la marque U qui fait l'objet, vous savez, de ce qu'on appelle les contrats tripartites, où justement il y a nous, une coopérative laitière et un embouteilleur. Et là, on est tous gagnants, on est tous d'accord, c'est 1 euro. Il y a une exception, il y a un lait premier prix, ce qu'on appelle, vous savez, le premier prix pour certains clients. C'est pas du tout le plus gros de nos ventes, mais c'est une offre qui existe parce qu'elle est nécessaire pour certains clients.
Et là, il est combien ?
Et là, on est aux alentours de 85-89 centimes.
Qui rogne ? Est-ce que c'est l'agriculteur qui rogne ou est-ce que c'est vous qui rognez ?
C'est aussi un contrat avec certains producteurs, on est d'accord aussi, mais peut-être ce prix-là qu'il faudra à terme encore revoir. Il n'a cessé d'augmenter ces dernières années, c'est plus le plus gros des ventes, et je pense que sur le lait, beaucoup de gens ont compris qu'il fallait payer un juste prix.
Dominique Schellcher, faut-il accepter d'augmenter la TVA, donc in fine le prix d'un certain nombre de produits, pour pouvoir augmenter les salaires? C'est comme ça que vous le posez. Cette question, elle se pose d'ailleurs depuis le début de cette campagne présidentielle. Un vrai débat sur une TVA dite sociale, c'est-à-dire préférer augmenter la TVA, mais pouvoir baisser les charges sur les salaires.
Pour vous répondre, je préfère partir du tout haut. Quel est pour moi, la mère de toutes les batailles dans cette campagne, c'est redonner du pouvoir d'achat aux gens, redonner du salaire aux gens, augmenter les salaires. L'employeur aujourd'hui est étouffé. Le salaire est dans un étau. Je rappelle ce chiffre. Il y a 50 ans, les gens touchaient 70% de leur super brut, donc toute charge comprise. Aujourd'hui, c'est encore 52%. On a trop fait porter la protection sociale en général sur le salaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les travailleurs aujourd'hui, essentiellement les travailleurs, qui prennent en charge le coût de la protection sociale. Il faut diversifier cette couverture-là pour libérer le travail, permettre aux employeurs d'augmenter les salaires et redonner de l'air.
Vous redonnez régulièrement ce chiffre. Vous dites, si moi je veux augmenter l'un de mes collaborateurs pour qu'il puisse disposer réellement de 100 euros supplémentaires à la fin du mois, alors l'entreprise doit supporter une augmentation du coût du travail d'environ 483 euros. C'est-à-dire 483 euros pour vous, pour qu'à la fin il puisse avoir 100 euros dans sa poche.
Exactement. Je fais une précision quand même, parce que certains m'ont fait quelques commentaires là-dessus. Là, c'est pour un salarié autour du SMIC célibataire qui touche aussi la prime d'activité. Si vous augmentez un salarié aujourd'hui de 100 euros au niveau du SMIC, il perd sa prime d'activité. Mais là, le salarié va pas être d'accord. Donc, pour compenser l'ensemble de son revenu et qu'il ait vraiment 100 euros de plus à la fin, c'est effectivement 483 euros, tout compris.
Donc, augmenter la TVA, quitte à ce que les prix augmente dans les rayons, parce qu'aujourd'hui, de 20%, elle passerait à 24%.
Oui, mais Apolline de Malherbe, il n'y a pas que augmenter la TVA. La première chose qu'il faut dire, faut aussi peut-être reconsidérer le volume des dépenses. Est-ce que déjà on peut réduire cette somme avant de la transférer ? Première chose. Deuxième chose, on ne toucherait pas à la TVA des produits de première nécessité, la TVA la plus basse. Et après, moi, la seule solution qu'on voit, c'est effectivement un transfert d'une partie de ces charges sur la TVA la plus élevée, qui est en France une des plus basses d'Europe. Faut savoir que cette TVA, c'est pas ce que je fais du tout, ce qu'on voudrait faire. Elle est jusqu'à 27% dans certains pays européens. Nous, on est à 20%. Mais il y a peut-être une marge de 2 points, par exemple.
Vous êtes assez François Hollande. Vous avez vu les propositions de François Hollande. Je sais bien que vous ne voulez pas forcément rentrer à proprement parler dans la campagne, mais François Hollande, une de ses propositions phares, ces jours-ci, c'est de faire passer la TVA à 24%, mais de la faire passer à zéro, en revanche, sur les produits de première nécessité.
Oui. Il faut absolument protéger les produits de première nécessité. Mais il faut débloquer cet étau qui enserre tout le monde. C'est une des attentes prioritaires des Français. Et voilà, c'est mis en débat, que les spécialistes, les économistes l'évaluent. Mais il faut, j'espère, je vous l'assure, il faut que l'élection de l'année prochaine conduise un président qui vraiment trouve une solution à ce sujet-là. C'est impératif, sinon ça va être très difficile.
Vous êtes inquiet de l'année qui s'ouvre ?
Je suis très inquiet. Tous les ingrédients actuellement qu'on a en face des yeux, c'est un ralentissement quand même de l'économie française. La consommation, moteur de la croissance, elle est quand même pas très forte. Elle est atone parce qu'il y a cet attentisme. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile, d'autres qui économisent un peu parce qu'ils ont peur de la suite. La configuration actuellement, vous savez, mais toutes les campagnes politiques, les gens se mettent un peu en précaution
et attendent la suite.
Et c'est jamais bon pour l'économie française. Et après, quand on entend plein de propositions, les premières, parce que maintenant ce qui nous intéresse nous, c'est de rentrer dans le détail de toutes ces propositions, on n'est pas rassuré.
Vous n'êtes pas rassuré.
À ce stade. Donc vive le débat, vive la confrontation des candidats, vive vos interviews dans les prochains temps.
Vous allez les recevoir, les auditionner, les rencontrer?
Absolument, ça on le fait au niveau de notre fédération. On a décidé de recevoir l'ensemble des candidats des partis représentés à l'Assemblée nationale. On en a déjà reçu, on va continuer à le faire. Là, le but c'est quoi? C'est de partager nos préoccupations comme on le fait ce matin et de pousser certaines idées.
Un mot sur la question de la transparence salariale dans les entreprises. Là, on parlait de la question de l'augmentation des salaires. Cette transparence salariale, ça sera présenté en Conseil des ministres demain. C'est une transposition d'une directive européenne, obliger les entreprises à être transparentes sur leur rémunération. Alors, pas dire qui gagne quoi dans quel bureau, mais donner la moyenne à poste égal qui gagne quoi. Et notamment, la différence entre les hommes et les femmes. Vous, dans vos magasins, est-ce que vous pratiquez cette transparence? Est-ce que vous redoutez cette transparence? Est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Vous en êtes où?
On n'a rien à cacher. Déjà, ça, c'est sûr qu'on n'a rien à cacher. Maintenant, ça concerne dans un premier temps les très grandes entreprises. Donc, mes PME, les magasins, c'est des PME, hein, ne sont pas concernés dans un premier temps. Maintenant, tout ce qui contribue, je vais vous dire, particulièrement à l'égalité entre les hommes et les femmes, où nos chiffres sont plutôt bons dans notre métier, il faut avancer et il faut le faire.
Il faut le faire et il faut le faire de manière zélée, c'est-à-dire que certains chefs d'entreprise, notamment via le MEDEF, ont reproché au gouvernement d'aller trop loin dans cette demande. Vous, pour le coup, c'est pas le cas.
Alors après, voilà, faut donner un cadre raisonnable qui soit compatible avec ce que les entreprises peuvent faire, trouver le juste équilibre. Parfois, le défaut de la France, c'est par rapport à ce que demande l'Europe, d'en faire trop effectivement. Donc faut pas en faire trop non plus, faut faire ce qu'il faut pour que l'égalité particulièrement avance.
Vous êtes à la frontière avec l'Allemagne, votre propre magasin, oui. À vous, il est en Alsace. Comment vous avez réagi aux élections en Allemagne? Est-ce que vous redoutez la période qui s'ouvre?
C'est une période très surprenante avec des déclarations qu'on entend effectivement dans ce pays, effectivement que je connais bien, très surprenante et inquiétante. Maintenant, est-ce un cas isolé? Est-ce le début d'un mouvement? C'est toute la question. Mais vous savez, regardons les sondages aujourd'hui que vous commentez tous les jours. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Sous 50 ans, aujourd'hui, les gens mettent LFI contre Rassemblement National en France. Et c'est un peu au-dessus de 50 ans que, notamment, Édouard Philippe intervient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut parler...
Les plus jeunes votent davantage dans les extrêmes.
Voilà, mais il faut parler à ces jeunes. Il faut parler de leurs préoccupations, parler de leur avenir. Et aujourd'hui, certains le font. Ils ont les faveurs des sondages. Mais tout le monde doit s'adresser à eux avant tout. Et quand j'entends tous les jours, c'est ma vie est faite. J'ai tellement peur pour mes enfants et des jeunes préoccupés de la suite. Un moment où le monde est bouleversé.
Il faut
apporter des réponses.
Une rupture aussi de génération. Merci Dominique Schelcher d'avoir répondu à mes questions ce matin. PDG de coopérative U, des magasins U. Il est 8h50 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Dans un instant, les GG sur RMC. Jusqu'à midi, vous allez pouvoir débattre de l'actu. Quel est le programme, Alain Marchal?
Eh bien, on va revenir sur ce qui s'est passé à Carcassonne avec la police municipale, les propos racistes tenus par un chef d'équipe. Est-ce qu'il est temps de faire le ménage dans la police municipale de Carcassonne? C'est au 32-16 qu'on en parlera avec vous.